les podcasts de Radio Vatican.
Les États membres de l'Union européenne ne sont pas tenus de délivrer des visas de longue durée aux réfugiés en danger. C'est ce qui ressort d'un arrêt publié aujourd'hui par la Cour de justice de l'Union européenne qui avait été saisie par le Conseil du contentieux des étrangers, un organisme belge, au sujet du cas d'une famille syrienne. Cette famille originaire d'Alep, de confession chrétienne orthodoxe, avait demandé un visa humanitaire auprès de l'ambassade de Belgique à Beyrouth. Malgré leurs 3 enfants mineurs et leur appartenance à une minorité persécutée, leur demande avait été rejetée. La Cour de justice de l'Union européenne confirme que le droit d'asile relève de la stricte compétence souveraine des États qui sont donc juridiquement libres d'appliquer une politique restrictive dans ce domaine. Cette décision suscite l'inquiétude des associations d'aide aux migrants. Claire Rodier, juriste au GISTI et cofondatrice du réseau Migre Europe, nous explique les enjeux de cet arrêt.
La question, c'était de savoir si quelqu'un est en danger, subit des menaces et des craintes de persécution au regard notamment de la Convention de Genève sur les réfugiés. Est-ce qu'un État peut lui refuser l'accès à son territoire? Et l'avocat général et les tribunaux belges avaient considéré que non, que le droit international s'imposait, et la Cour va dans le sens d'une suprématie du droit national. Ça vient corroborer, confirmer la position de l'Union européenne dans son ensemble, que ses frontières, si les États ou l'Union le décident, sont infranchissables, y compris si il y a des risques réels de persécution ou pour l'intégrité physique des personnes. C'est vrai que cette décision, elle est très inquiétante, notamment par rapport au respect du droit d'asile. Mais il est vrai que depuis quelques années, l'Union européenne a déjà montré que le droit souverain des États prévalait finalement sur le droit d'asile, qui est pourtant inscrit dans la constitution de tous les États de l'Union européenne.
Très concrètement maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour cette famille syrienne impliquée dans ce conflit avec le gouvernement belge? Est-ce qu'elle va être expulsée? Et si oui, vers où peut-elle être expulsée?
Il est probable que si le gouvernement belge décide de le faire et qu'il y a un recours qui est formé contre cette expulsion, le gouvernement pourra s'appuyer sur cette décision pour maintenir sa position. Et si le conflit remonte de nouveau devant la Cour, il y aura probablement une confirmation de l'esprit de cette décision, qui est que finalement, les gens peuvent aller mourir ailleurs du moment que la Belgique prétend que c'est nécessaire pour l'intégrité de ses frontières.
Et donc c'est une décision, c'est un arrêt sur lequel d'autres États restrictifs sur le droit à l'immigration peuvent s'appuyer.
Oui, tout à fait. C'est une question qui n'avait pas été encore posée à la Cour de justice, mais en France, on a déjà eu une affaire semblable, par exemple, de refus de visa opposé à des ressortissants syriens, où le tribunal administratif avait enjoint à l'État français de délivrer un visa, et le Conseil d'État, c'est-à-dire la juridiction supérieure en matière administrative, avait annulé cette décision du tribunal en considérant que la France avait le droit souverain de refuser l'admission sur son territoire. Et on était dans un contexte à peu près semblable avec une famille qui avait démontré qu'elle avait des risques réels de persécution si elle ne pouvait pas émigrer. Une autre conséquence non juridique mais pratique, c'est que ça va encore augmenter les prises de risque par des personnes qui, sachant qu'elles ne peuvent pas obtenir d'autorisation légale pour entrer dans les pays, vont encore plus continuer, si elles ont vraiment besoin de fuir leur pays, à emprunter des voies illégales, donc très dangereuses, très coûteuses, avec tout ce qu'on connaît sur les naufrages en Méditerranée. Il faut quand même rappeler que l'année 2016 a été un record en matière de décès de migrants dans la traversée de la Méditerranée. On a atteint 5000 personnes qui sont mortes. Et ce type de décision, qui de fait dissuade encore un peu plus les personnes d'essayer de tenter les voies légales, c'est-à-dire de demander un visa, ne peut qu'encourager les gens à prendre des routes irrégulières, à payer des passeurs, etc., etc. Donc on est dans une espèce de cercle vicieux et de contradiction, où d'un côté l'Union européenne prétend lutter contre les passeurs et de l'autre côté elle se donne les moyens juridiques d'obliger les personnes, les migrants à faire appel aux passeurs.
L'autre actualité de cette journée, c'est ce vote du Parlement hongrois sur le placement systématique des migrants en détention. Est-ce que finalement ce vote ne valide pas un état de fait déjà en pratique en Hongrie ou dans d'autres États européens ?
Oui, c'est vrai pour la Hongrie, c'est vrai aussi pour un petit pays dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, qui est Malte, qui, depuis le début des années 2000, était connu pour ses pratiques d'internement systématique des demandeurs d'asile. Là aussi, on est en décalage, pour ne pas dire en contradiction, avec l'esprit de la Convention de Genève, qui, si elle n'interdit pas formellement la détention des demandeurs d'asile, prescrit de limiter cette détention au cas où il est absolument impossible de faire autrement. Alors, c'est évident qu'à partir du moment où une loi nationale prévoit la détention systématique, on n'est plus du tout dans les clous de ce qui est prescrit par le droit d'asile. Le Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a depuis longtemps produit ce qu'on appelle des lignes directrices à l'attention de tous les États signataires de la Convention de Genève, c'est-à-dire un très très grand nombre de pays dans le monde et tous ceux de l'Union européenne, pour leur rappeler cette règle qu'il faut limiter au cas d'extrême nécessité le recours à la détention. On voit que de plus en plus des pays bafouent complètement ces lignes directrices. On est dans une sorte de partie de bras de fer qui oppose d'un côté le droit international et le respect des droits fondamentaux des personnes, notamment les demandeurs d'asile, et un droit national qui prétend imposer, au nom du contrôle de ses frontières, au nom de la lutte contre l'immigration irrégulière, des traitements qui ne sont pas conformes justement à ce droit international.
Un entretien réalisé par Cyprien Biette.